quand les dieux rôdaient sur la terre. Il y a très longtemps, il fallait être sur ses gardes. Cette foule de déesses et de dieux qui ont commencé à apparaître en Grèce il y a environ 3500 ans, avec leur suite innombrable de demi-dieux, de fils et de filles, s'accrochaient tous les jours aux humains, ne les laissaient jamais en paix. Ces dieux ne cessaient pas de tourner autour d'eux. Ils les hantaient dans leurs maisons, dans leurs champs, sur les vagues de la mer, dans les tourbillons des fleuves. Tout d'un coup, des divinités sortaient des étangs, des arbres des forêts, ou imprudents on allait chasser. Une forme surgissait lumineuse, ou encore couverte de l'ombre d'où elle venait. Elle parlait, touchait, agissait, puis s'envolait insaisissable, souriante ou menaçante.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Souvent, ces dieux rôdaient sans se faire voir dans la tête des femmes et des hommes, dans leur corps, leur langage, dans leurs idées. Ils les faisaient changer d'un coup, susciter les désirs ou, au contraire, étouffer toute volonté. À leur guise, les dieux pouvaient rendre fou qui ils voulaient, quand ils voulaient. Parfois, ils se contentaient de faire un croche-pied et on s'étalait par terre. Il fallait surtout y voir un signe, mais on ne savait pas bien de quoi. Parfois, au contraire, ils faisaient courir plus vite un coureur aux Jeux Olympiques et lui donnaient la victoire, par pur caprice, ou parce que prudent, le coureur avait au préalable promis à son dieu favori de lui offrir de grasses offrandes s'il gagnait. Mais parfois, les dieux le faisaient déraper dans une bouse de vache et tout s'arrêtait. Ces déesses et ces dieux surgissaient n'importe quand, imprévisibles, au moment où on s'y attendait le moins, et personne ne pouvait dire à l'avance ce qu'ils allaient faire. Quand au bord d'un chemin, sur une plage, ou à l'entrée de sa maison apparaissait un être inconnu, un étranger, personne ne pouvait dire s'il s'agissait d'une divinité ou d'un humain. Les dieux étaient les maîtres, libres de prendre l'apparence qu'ils voulaient. Un dieu était, si on peut dire, le professionnel de ces apparitions subites, inattendues, et de ces disparitions pas moins brutales. C'était sa spécialité à lui, son domaine, le dieu Dionysos, le Bacchus romain, dieu du vin, de l'ivresse, du désordre, dieu de la danse, du rythme, de la frénésie, le dieu du changement constant d'apparence, de la dissimulation, le dieu du théâtre, un dieu insaisissable, bizarre, errant. Dionysos était chez lui partout et nulle part.
Écoutez ma voix, écoutez, oh, Bacchus !
À la fois doux, consolateur comme peut l'être le vin et sauvage.
Bacchus !
Dévoreur de chair crue, animale ou humaine.
Qui est celui-là ? Qui est-il ? D'où vient ce cri du dieu de la joie qui m'appelle ?
Oh, celle-ci est ma voix. Je suis le fils de Sémélé, le fils de Dieu.
Il venait, répandait le bonheur de la fête, ou au contraire le désastre, puis repartait. On l'attendait et on le craignait. Les humains qui, par malheur, s'étaient opposés à lui parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il était un dieu, se voyaient vite persécutés, déchiquetés, démembrés. C'est ce que nous raconte un poème anonyme ancien, sans doute du 7e ou du 6e siècle avant notre ère. Un hymne à Dionysos. Cette fois, Dionysos se donne l'apparence d'un jeune homme dans sa première croissance. Ce jeune homme est merveilleusement beau. Sa chevelure est bleu sombre, il la secoue. Un manteau de pourpre couvre ses épaules solides. Il aurait pu prendre un aspect plus féminin s'il l'avait voulu. Il reste immobile, assis au bord de la mer, à la pointe extrême d'un cap, et attend. On le repère de loin. Surgissent des pirates qui voient l'aubaine. Sans doute un fils de roi, qu'ils échangeront contre une grosse rançon. Ils se précipitent, l'enlèvent, le ligotent, dans des cordes tressées avec des brins de gâtillier. Et ils prennent la mer, le cœur plein de joie. Mais, surprise, les liens se détachent tout seuls.
Mais les liens ne le tiennent pas. Les cordes de gâtillier s'échappent, tombent de ses mains, de ses pieds. Lui, bien assis, sourit, de ses yeux sombres.
L'homme de barre s'en aperçoit. Comprend qu'ils ont voulu ligoter un dieu, il ne sait pas lequel, Zeus, Apollon ou Poséidon. Dionysos ne fait pas partie des dieux connus. On ne peut même pas imaginer que c'était lui. L'homme de barre prend peur et supplie le capitaine des pirates de relâcher leurs prisonniers. Mais le capitaine ne veut rien entendre. Il pense qu'un démon a dérangé l'esprit de son pilote. Il lui ordonne de faire voile vers le large. Et des merveilles commencent à se produire. Le dieu souverain se révèle dans ses deux aspects, le charme et la férocité.
En premier, une marée de vin se mit à bouillonner autour du vif bateau noir. 12 boissons qui sent bon. Un parfum immortel se leva. À voir cela, tous les marins furent pris d'effroi. Puis, tout de suite, près du sommet du mât se dressa une vigne, là et là. D'elle pendaient 1000 grappes. Autour du mât monta la vrille noire d'un lierre en pleine floraison. Un grand charme se levait de ses fruits. Les attaches des rames étaient toutes ceintes de couronnes.
Le bateau ressemble à s'y méprendre au char festif, en forme de bateau, qui chaque année était promené dans le territoire d'Athènes pour célébrer la venue de Dionysos, le dieu attendu, lors de la grande fête des fleurs, les Anthestéries, quand finissait l'hiver. Mais les pirates ne sont pas à la fête. Effrayés, ils pressent le pilote de rejoindre la côte.
Mais à l'extrémité du bateau, le dieu pour eux se fit lion terrible et rugit avec fracas. Au milieu du bateau, il suscita une ours au cou hérissé. Il montrait des signes. En rage, l'ours se dressa. Le lion, à l'avant du pont, lançait un terrible regard torve. Les marins s'enfuirent vers la poupe.
Le capitaine y passe. Le lion saute sur lui et le dévore. Les marins sautent à la mer et sont transformés en dauphins. Seul, l'homme de bar, qui avait compris que le jeune homme mystérieux était un dieu, est épargné par Dionysos. Le dieu, reprenant forme humaine, l'appelle par son nom, le félicite, et dit finalement qui il est.
Rassure-toi, divine Hécator, toi qui charmes mon cœur. Moi, je suis Dionysos, le dieu qui gronde. Me mit au monde Sémélé, fille de Cadmos, unie d'amour à Zeus.
Le dieu n'était donc pas connu de ces gens. Il arrivait, on ne sait d'où. Précisément, c'était là sa force et sa menace. Inconnu, étranger, étrange, d'abord indéchiffrable. Sous cette apparence trompeuse, il se montrait en fait tel qu'il était en vrai, c'est-à-dire insaisissable. Des histoires de ce genre, d'arrivées soudaines, inattendues et violentes de Dionysos, il y en a beaucoup. Le dieu s'en prend d'abord à qui ne le reconnaît pas, à qui se détourne de lui, même pour de bonnes raisons. C'est ce qui est arrivé aux trois filles d'un certain Minyas, roi d'une ville qui s'appelait Orchomène, ville de Béotie au centre de la Grèce. Malheureusement, nous n'avons plus le poème grec de la poétesse Corinna, du 5e siècle avant notre ère, qui comptait leurs mésaventures, mais seulement des résumés tardifs, plus ou moins discordants, et les métamorphoses du poète latin Ovide.
Je suis Bacchus, fils de Jupiter.
T'es aussi un fils de Jupiter ?
Oui, bah tu sais, on est nombreux. Arcas, Pollux, Hercule, Persée. Je te parle que de ceux qu'il a eu avec des mortels.
Tu fais pas partie des dieux ?
Oh si, si. Je suis le petit dernier. Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Je ne m'attaque qu'à ceux qui doutent de ma nature divine. T'es pas le genre à douter, toi, si ?
Et si je le devenais ? J'aurais des raisons à la fin de ne plus vous croire tous, là.
Je te le conseille pas. Les trois dernières filles qui ont douté de moi, ça s'est mal terminé, là aussi.
Le roi Minyas avait trois filles. Léocipé, Arcipé, Alcatoé. Elles étaient travailleuses, fidèles à Athéna, la déesse artisane. Elles restaient tout le jour à travailler sur leur métier à tisser. Sérieuse, elle refusait d'aller célébrer Dionysos, de participer aux danses bachiques en son honneur. Le dieu leur apparaît une première fois sous la forme d'une jeune fille, pour leur demander de se joindre à la cérémonie. Elles refusent toujours. Dionysos leur apparaît alors sous la forme d'un taureau, puis d'un lion, puis d'un léopard. Elles prennent peur. On dit aussi que soudainement, Dionysos fit pousser du lierre et de la vigne sur le bois de leur métier. Des serpents grouillent dans les paniers contenant la laine. Du toit de leur maison ruisselle le vin, le miel et le lait. Les filles s'affolent, se disent qu'il faut faire un sacrifice à Dionysos, qu'elles ont négligé. Elles tirent au sort celle des trois qui devra faire ce sacrifice. Cela tombe sur Léocipé. Le sacrifice est ignoble, sanglant. Léocipé, devenue folle, devient infanticide. Prise d'un désir de chair fraîche, elle tue son enfant, Ipsassos. Avec l'aide de ses sœurs, elle le découpe en morceaux, comme les chiens déchirent un jeune faon. Puis les trois sœurs se précipitent vers la montagne. Elles rejoignent les danses des dévotes du dieu, les délirantes, qu'on appelle les Ménades. Ménades, le nom des adeptes de Dionysos veut dire les folles. Le mot est à rapprocher du nom grec de la folie, mania, qui a donné notre manie. Finalement, le dieu Hermès arrive. et d'un coup de sa baguette magique, il transforme les occupés en chauve-souris et ses deux sœurs en chouettes.
Oh, les voyez-vous, ces pierres bouger sur les colonnes? C'est le dieu du fracas qui lance son cri dans l'édifice.
Allume le flambeau éclatant de la foudre. Brûle, brûle les maisons de Panthée.
Pourquoi tant d'horreur? Pourquoi les Grecs ont-ils inventé, célébré, tant aimé ce dieu enjôleur, trompeur et sauvage, incroyablement jaloux? Revenons un instant sur l'histoire des filles du roi Minyas. Comme tant de femmes grecques, elles sont tisserandes, dévouées à Athéna, la déesse ouvrière qui sait fabriquer des chefs-d'œuvre. Elles tissent sans doute des merveilles. Elles assemblent des fils de couleurs différentes pour créer des images chamarrées, de fleurs, de dauphins ou de batailles héroïques, on ne sait pas. Tout dans leurs mains peut devenir image, fixée à jamais. Elles assemblent de la beauté avec grand art. Dionysos survient, incohérent. Il transforme leur métier en végétation. Il mélange pour cela le lierre et la vigne, deux plantes qui se ressemblent mais qui, selon les anciens, sont l'antithèse l'une de l'autre, comme le rappelle le grand botaniste Pierre Liotagui. La vigne, plante saisonnière dont le fruit donne le plaisir de l'ivresse, le lierre, plante vivace, longévive, dont les fruits sont dangereux et qui souvent rappellent la mort. Les fils bien peignés de la laine sont transformés par Dionysos en serpent. Dionysos défait, détruit, disperse. L'enfant mâle, qui n'est pas une fabrication, mais la chair de sa mère Léocipé, qui est le cœur de la maison, la promesse que la famille va durer, est dépecé, démembré, comme un animal. On voit poindre ce qu'apporte Dionysos. Les filles du roi abandonnent leur savoir-faire, la beauté des scènes tissées qu'elles savent produire. Elles détruisent la beauté de l'enfant et se laissent entraîner par une musique frénétique. Un art chasse l'autre. La musique démente, qui met hors de soi, entraînante et rythmée, triomphe sur l'art méticuleux du tissage et des images.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
I start to believe if I was a leaf, pink sky, the man shakes his hands held high. Cruise me, yacht, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. Slow me down, no return. I'm derailed. Derailed, no, no, no. I'm derailed, no. Baby, cruise me, baby, on.
Pierre Judet de la Combe présente Dionysos, le dieu du vin, de la danse, du théâtre et de la folie.
Qu'est-ce que vous regardez?
C'est Gaspard avec Cabri. Cabri, c'est son bouc. Pauvre de nous, il prend sa flûte.
C'est ce vieux bonhomme qui vous trouble? Vous le connaissez?
Oui, quand il joue de la flûte, il se passe des choses. Une fois, il a déclenché une grêle, une véritable catastrophe. Les grêlons étaient gros comme des œufs de pigeon.
D'où vient ce dieu? Qui est-il? La version la plus connue le fait naître dans la ville de Thèbes, la ville de Grèce, et non la Thèbes d'Égypte. Dionysos est issu des amours plus ou moins secrètes de Zeus et d'une mortelle, Sémélé, la fille du roi qui a fondé la ville, le roi Cadmos. Cette ville, Thèbes, est un lieu particulier. C'est une ville à la fois fabuleuse et maudite, comme la Troie de l'Iliade. Maudite parce que d'abord parfaite, trop heureuse, trop proche des dieux, et produisant par là même son malheur. Œdipe et sa famille de damnés appartiennent à cette ville.
Auditeurs, on se représente toujours la Grèce comme une colonne blanche. Imaginez maintenant un lieu brûlé, aride, sous un ciel farouche. Des murs de pierre, des murs de briques, des grilles, des égouts, des chambres basses, des portes secrètes, des métamorphoses. Là s'entre-dévorent de grandes familles en costume de Romanichelle et dont les mœurs ressemblent beaucoup à celles d'insectes souterrains. Emplacement idéal pour les dieux qui aiment bâtir et poser des pièges. Les dieux grecs ont la cruauté de l'enfance et leur jeu coûte cher aux mortels.
Zeus, comme d'habitude, ne se montre pas à son amante humaine sous sa forme d'origine. D'ailleurs, personne ne sait quelle est cette forme. Aucun mortel ne la verra jamais. Sémélé en aura un aperçu, mais il lui sera fatal. Sémélé est enceinte du dieu. Il est évidemment tentant pour ses sœurs, pour les habitants de Thèbes, d'accuser Sémélé. Elle prétend être enceinte d'un dieu. Mais, disent les gens, elle cache en fait une liaison toute banale avec un mortel. Héra, la déesse, l'épouse de Zeus, à qui rien n'échappe, est évidemment jalouse. Et elle veut jouer un bon tour à son mari et à la pauvre fille. D'une manière ou d'une autre, peut-être en prenant l'apparence de la nourrice de Sémélé, Héra persuade la jeune amante de son mari d'obliger Zeus à prouver qu'il est bien Zeus, et non pas n'importe qui. Pour cela, Héra convainc Sémélé d'exiger de Zeus par serment qu'il fera tout ce qu'elle lui demandera. Puis, une fois qu'il aura juré, elle lui demandera de se manifester dans sa majesté de dieu de la foudre, des éclairs et du tonnerre. Au moins, elle sera sûre qu'il est Zeus. La jeune fille s'exécute. Zeus, qui a compris la ruse, résiste, mais doit céder puisqu'il a juré. Il se montre à Sémélé avec sa foudre et ses éclairs en les faisant les plus inoffensifs, les plus petits possibles. Mais, foudroyé, Sémélé s'enflamme tout de suite, brûle et se consume. Il n'y a d'elle plus que des cendres. Héra a gagné, mais pas vraiment. Zeus recueille l'enfant à naître de Sémélé. Il ouvre sa cuisse. Il y coud l'embryon et le cache. Dionysos, bien caché dans la cuisse de son père, y achèvera sa croissance et en sortira pour naître. C'est pour cela qu'on dit de quelqu'un qui se croit divin qu'il est né de la cuisse de Jupiter, et non pas de la cuisine à Jupiter, comme le disait autrefois Coluche. Zeus, le dieu mâle et conquérant, se fait mère, matrice avec sa cuisse, tout en restant le surmâle qu'il est. La force des cuisses masculines est souvent évoquée dans les poèmes érotiques. Zeus fait naître Dionysos loin de Thèbes. Selon la légende la plus connue, la naissance a lieu sur le mont Nysa, en Asie. De ce lieu, Dionysos tirerait son nom. Il est fils de Zeus, Dio. Zeus s'appelle Dios, si on met son nom au génitif pour dire l'origine. Fils de Zeus sur le Nysa, Nysos. Est-ce que tous les Denis et toutes les Denises d'aujourd'hui, dont le nom vient directement de Dionysos, ont bénéficié du privilège de cette double naissance, humaine et divine? Zeus ne pouvait pas élever son fils. Il l'a, dit-on, d'abord confié à une sœur de Sémélé, Ino, la seule qui, selon certaines versions du mythe, était bienveillante. Ino, pour cacher Dionysos, l'habille en fille, mais ça ne marche pas. Zeus transforme alors l'enfant en chevreau, puis le remet à des nymphes, qu'il élève en pleine nature, dans un cadre sauvage, loin de la civilisation. En Asie, sur sa montagne, loin de la Grèce et de Thèbes, Dionysos prend forme. Il rassemble des femmes autour de lui, des hommes aussi. Il les initie à un rite nouveau, inconnu, Des courses dans la montagne avec des torches, des transes sur un rythme très serré de danse, au son criard et suraigu des flûtes dans la cadence entêtante des tambours. L'un des caractères étonnants, uniques de ces rites, est que le dieu y prend toute sa part. Il danse avec ses ménades, avec ses délirants. Dans un rite normal, prière, sacrifice, on s'adresse à un dieu invisible, absent, lointain. On lui adresse des phrases bien articulées. On lui envoie les fumées qui montent des sacrifices et dont on espère qu'elles rejoindront la déesse ou le dieu qu'on cherche à toucher. Avec Dionysos, au contraire, tout est proche, immédiat, déchaîné. On crie, on danse avec le dieu qui montre son visage à celles et ceux qui le suivent. Il n'y a pas de distance. Il y a fusion entre le dieu et celles et ceux qui le célèbrent. Tout le monde s'ouvre aux autres, aux dieux et aux compagnons et compagnes, prises dans la même transe divine. Il n'y a plus d'individualité séparée. En 1861, dans un de ses petits poèmes en prose qui composent le spleen de Paris, Charles Baudelaire définissait dans des termes proches du plaisir bachique le plaisir que procure, selon lui, la plongée et la fusion de soi dans la foule des rues. Une ineffable orgie, dit-il.
Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre et le paresseux, interné comme un mollusque.
Dans la foule, on peut devenir ce qu'on veut. On peut prendre tous les masques. On se donne sans réserve à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe, dit Baudelaire. Comme avec Dionysos et ses fans. Mais tout cela a lieu pour le moment en Asie, loin de la ville natale de Dionysos. Il faut revenir. Le retour sera dramatique, puisque Thèbes n'avait pas reconnu le dieu, n'avait pas cru en sa divinité et avait injurié Sémélé, sa mère. Le dieu sera encore une fois particulièrement féroce. Il se venge et venge sa mère. La fête deviendra la tragédie. Les Grecs de Thèbes vont apprendre la leçon surprenante que leur donnera un dieu grec bien de chez eux, mais d'abord exilé, Dionysos. Ils vont apprendre à ne plus être grecs au sens où ils l'entendaient. Ils vont apprendre à accueillir l'Asie au plus intime d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils seront véritablement grecs.
Jean-Pierre Vernant.
Dionysos est un dieu oriental, d'une certaine façon, par son costume, son comportement. C'est un dieu qui a une robe de femme. C'est le dieu du délire, avec ses ménades, qui l'enthousiasme. C'est le dieu de la folie. Pourquoi ? Parce que les Grecs, je crois, ont compris que on ne peut pas construire une communauté d'égaux cimentée par l'amitié et où les gens se sentent les mêmes que les autres sans introduire en même temps l'altérité en plein milieu.
De toute éternité, l'univers a compté plus de six goulons qu'il y a d'honnêtes gens, plus d'ivrognes que de dames de charité, plus de fesses tonneaux que de chaînes pensants. Tout buveur se doit donc de leur porter un banc que ces maîtres aient pour nom Bacchus ou Rabelais, Adoc ou Bukowski, Boris Elchin ou Pan, Odin ou Dionysos, ou ce bon vieux Noé. Mais tous ces baronnets, quelle que soit leur descente, quel que soit leur mérite et leur gloire non feinte, ne peuvent, même s'ils sont sur la bonne pente, revendiquer le titre de roi des torches peintes. Car au-dessus de tous, je suis bien le plus grand, seigneur des beuveries à rouler sous les bancs. Rond comme un baptistère, bourré comme un cimetière, je suis si fourmore le prince des enfants. Les hommes me nomment Dieu le Père. C'est d'ailleurs, je l'avoue, cet aimable penchant qui vaut à votre globe son air un peu bancal. Je l'ai sculpté bien rond, pourtant j'en suis conscient, pas tout à fait d'aplomb d'une effoude au Bengale. Là, un typhon fripon vient chatouiller vos côtes et rase une cité d'un petit coup de lame. Ailleurs, soudain, la terre, face aux vieilles bigotes, se craquelle et avale 50 ou 100 000 âmes. On me reproche aussi quelques volcans qui grondent, ou l'eau qui noie la Chine et boude le Sahel. Mais vu bien excusable, puisqu'en créant le monde, je n'en étais pas à mon premier hydromel. Ça fait déjà longtemps, bien avant la genèse, que je me prends des cuites à rouler sous les chaises. Noir comme une soutane, chargé comme un âne, je puis vraiment le poisson des enfants. Les hommes me nomment Dieu le Père. Même mon grand chef-d'œuvre, l'humaine mécanique, peut paraître victime de ce travers divin, à qui s'attarde sur un lépreux trisomique, un cul de jatte sourd ou un aveugle nain. Et même un corps bien fait, du moins en apparence, voyez comme il finit après trois tours de piste, tremblant de quoi de flasque et ménageant par danse, en attendant que l'âme joue les séparatistes. J'en entends plus d'un qui crie au travail bâclé. Pourtant j'ai réfléchi en créant cette vie. Mais quand j'ai bricolé l'homme en mon atelier, j'avais légèrement forcé sur l'ambroisie. Raide comme la justice, vidant tous les calices, je suis ivre mort, le prince des enfants. Le ciel fumait encore de ses vapeurs d'alcool lorsque j'ai décidé d'usiner vos humeurs. Dans ma douce euphorie, j'en ai sorti de drôle, tel l'amour qu'on l'outend et pourtant dont on meurt. Les pulsions qui animent tous ces docteurs et d'œil, conscience vert de gris, crâne et cerveau rasé, riant de voir saigner un frère ou un chevreuil, tout ça que font frémir l'odeur de la curée. Et dans le même élan de ma patte inspirée, je vous ai envoyé le marchand de canons, le grippe sous-repu, ignorant l'affamé, le tyran qui fait taire, la voix qui lui crie non. Et c'est également de mon divin képi que j'ai sorti l'orgueil, l'envie, la lâcheté, la bêtise, l'arrogance, la peur, la jalousie, la colère, l'égoïsme, la haine, la vanité. Mais le pire de tout, ineffable largesse, dernier raffinement, j'ai suggéré aux hommes l'envie de croire en moi et le temps d'une messe, de boire à ma santé en chantant.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Dionysos rentre triomphalement chez lui en Grèce, mais il réserve un sort spécial affreux à sa ville natale, Thèbes, qu'il avait rejetée. Ce Dionysos, atrocement vindicatif, nous est connu par le théâtre, dont il était le dieu, comme dieu de l'illusion, des masques, du changement incessant d'identité, comme dieu de la danse. L'histoire de ce retour à Thèbes nous est présentée sur la scène du théâtre d'Athènes par Euripide, le poète tragique, dans sa tragédie intitulée Les Bacchantes, Bacchae. C'est avec Iphigénie Aulis, sa dernière pièce. Les Bacchantes sont jouées à la fin du 5e siècle avant notre ère, en l'an 406, l'année de la mort d'Euripide. Elles sont jouées dans le grand théâtre, sur la pente sud de l'Acropole. Ce théâtre est dédié à Dionysos. La pièce d'Euripide avec son Dionysos féroce est donc jouée dans une enceinte religieuse vouée à ce même dieu. Le prêtre de Dionysos siège au premier rang des spectateurs. Son dieu est amené à se reconnaître dans ce qui est montré sur scène.
Tu le regardes, tu le vois, le feu autour du saint tombeau de Sémélée, la foudroyée qui laissa derrière elle cette flamme, cette lumière du tonnerre divin. Jetez par terre vos corps convulsifs. Jetez-les sur la terre, ô Ménades. Voici que vient le Seigneur, le Fils de Dieu, qui va renverser ce palais.
Dionysos, dans ce drame, tient le premier rôle. Il organise tout. Il est le metteur en scène, le manipulateur. Il a choisi d'apparaître sous une forme humaine, comme un jeune étranger aux longues boucles blondes. Il passe pour efféminé, calmement, méthodiquement. Il va mettre en morceaux la ville qu'il a vue naître. Il s'en prend d'abord aux sœurs de Sémélé, sa mère. Dans cette version, Ino est également considéré comme coupable. Le châtiment est étonnant, paradoxal, comme on peut s'y attendre de la part du dieu qu'est Dionysos, le dieu du délire. Comme avec les filles du roi Minyas, il oblige les sœurs de Sémélé à devenir des ménades, à suivre ses rites. De femmes royales, respectables, les filles du roi Cadmos sont transformées en folles. Ce sera leur châtiment. Elles méprisaient Dionysos, eh bien, elles vont devenir bacchantes malgré elles.
Je les pique de l'aiguillon de la folie et je les sors de leur maison. Elles habitent la montagne, hors de leur sens. Je les ai forcées à porter l'appareil de mon culte.
Puis Dionysos s'en prend à toutes les femmes de Thèbes. Il efface toute distinction sociale. Le monde dionysiaque est égalitaire.
Et avec elles, j'ai frappé de folie et chassé de leur maison toute l'engeance femelle, tout ce qu'il y avait comme femme chez les Cadméens. Ainsi, mêlées sans différence aux trois filles de Cadmos, elles sont assises sous les pins verts, parmi les rochers sans toit.
Ensuite, il s'en prend au roi de la ville, le jeune roi Pentheus, petit-fils de Cadmos, son cousin donc. Le pauvre, il porte un nom prédestiné. Pentheus rappelle le mot grec pentos, qui signifie le deuil. La pièce sera son calvaire. Il se moque de son grand-père Cadmos, le fondateur de Thèbes, toujours vivant, et du devin attitré de la ville, le vieux Tirésias. Ces deux vieillards, presque croulants, ont décidé de se convertir à Dionysos. Ils s'habillent en bacchant pour rejoindre les femmes de Thèbes. En bons routiers de la politique et de la religion, ils ont compris qu'ils y ont intérêt. Face à son petit-fils Pentheus, révolté par leur déguisement, Cadmos dit qu'après tout, ce n'est pas si mal d'avoir un dieu dans sa famille. Tirésias, l'intellectuel, le devin, est plus subtil, plus roublard. Comme souvent, les tenants d'un pouvoir traditionnel comme le sien font tout pour minimiser la nouveauté et l'inattendu. Ils font tout pour réduire ce qui leur échappe et n'y trouver que ce qu'ils connaissaient déjà. Après tout, ce Dionysos nouveau qui arrive d'Asie n'a rien de surprenant ou de nouveau. S'il est le dieu du vin, il n'est que le dieu complémentaire de Déméter, la déesse bien connue, bien ancienne du blé. Les deux vont ensemble. Le vieux savant fait la leçon à Pentheus, le jeune politique.
Il y a deux principes, jeune homme, dans le monde. Déméter, la déesse, c'est la terre, quel que soit le nom que tu veuilles lui donner. Elle nourrit les hommes dans le sec. Lui, le fils de Sémélé, est allé au pôle contraire. Il a découvert l'humide dans la boisson de la grappe et il l'a introduite chez les hommes. Elle libère les malheureux de la douleur quand ils sont pleins du jus de la vigne. Elle donne le sommeil, l'oubli des tracas du jour. Il n'y a pas d'autre drogue contre la peine. Ce dieu, né dieu, coule en l'honneur des dieux. Le bien des hommes, il en est la cause.
Mais cela ne convainc pas Pentheus. Si Dionysos était si placide, si banal, s'il n'était qu'une boisson réconfortante du soir, comment expliquer que les femmes de Thèbes puissent d'un seul coup se mettre à déchirer les vaches d'un troupeau, à couper en deux des génisses, à démembrer des taureaux? Pentheus, jeune technicien de la politique, est un rationaliste. Il veut voir de ses yeux. Il veut comprendre, contrôler, évaluer et en tirer les conséquences politiques et policières adéquates pour nettoyer sa ville, pour la libérer de la folie. Ce désir de clarté et de contrôle va le perdre. Il demande à l'étranger aux longues boucles blondes, qu'il n'a évidemment pas identifié comme étant Dionysos, de le conduire auprès de ses femmes pour qu'il puisse les espionner. Dionysos accepte, mais à condition de travestir le jeune roi en femme, en bacchante, pour qu'il passe inaperçu. Pentheus, à regret, accepte. Il entre dans les vêtements d'une délirante. Dionysos le conduit jusqu'au lieu sauvage où se reposent les Thébènes. Il lui dit qu'il verra tout à son aise sans se faire voir s'il se poste tout en haut d'un grand pin. Doucement, le dieu courbe un grand arbre et installe Panthéos à la plus haute branche. Et doucement, il laisse le pin reprendre sa forme droite. Puis, brutal comme d'habitude, le dieu se révèle. D'une grande voix, qui ne pouvait venir que d'un dieu, Dionysos s'écrie.
« Mes filles, je vous amène là l'individu qui se rit de vous, de moi et de mon culte. Allez, vengez-vous de lui. »
Les Thébènes se réveillent, voient Panthéos bien en vue au sommet de l'arbre. Ce spectacle accroît leur délire. Elles se précipitent, agrippent le tronc, le secouent et déracinent l'arbre. Panthéos tombe. Sa mère Agavée se rue sur lui. Il la supplie, mais elle n'entend rien. Elle pose le pied sur sa poitrine et lui arrache le bras. Les sœurs le déchirent, jouent à la balle avec ses chairs sanglantes. La mère trouve la tête, l'enfile sur un bâton, pensant que c'était celle d'un lion des montagnes. Triomphante avec son trophée, elle rentre dans Thèbes, suivie de sa troupe. Commence alors le long travail du retour à la lucidité. Son père Cadmos lui fait petit à petit prendre conscience de son acte. Quand elle reconnaît la tête de son fils Panthéos, la mère se met à hurler. Elle se sait damnée avec sa famille et toute sa cité. Qu'a voulu faire Euripide avec de telles scènes d'horreur? Lui, le poète critique, qui pendant toute sa carrière s'est tellement moqué des dieux, qui les a tellement ridiculisés. Se serait-il repenti à la toute fin de sa vie et converti au plus mystique et au plus mystérieux d'entre eux, Dionysos? Ou au contraire, aurait-il tenu à montrer juste avant de mourir la sauvagerie insupportable de ce dieu, qui ne vaut pas mieux que les autres dieux? Sans doute, ni l'un ni l'autre. Le théâtre n'est pas si naïf, il ne fait pas la leçon, il montre, simplement. Puisque Dionysos est le dieu du théâtre, Euripide, homme de théâtre, montre ce qu'est le pouvoir de ce dieu, dans toute son ampleur. Dionysos n'est pas seulement une puissance divine qui s'abat du dehors sur les humains, comme le font un Zeus, un Apollon ou une Artémis. Il est à la fois homme et dieu, sage et fou, plaisant et terrible. Il est toujours ailleurs, sans lieu, là où on ne l'attend pas. Il oblige à sortir de soi-même, ce que Panthéos n'a pas su faire à temps, avant de subir le plus affreux déchirement de soi. Le théâtre ne juge pas, il sait montrer simplement ce qu'il y a de plus extrême, de plus contradictoire dans les expériences humaines, entre la douceur d'une douce ivresse et les larmes. Dionysos, le dieu joyeux et cruel, rassemble tout cela.
Pierre Vidal-Naquet.
Dionysos est un dieu redoutable, un dieu qui a le pouvoir de faire surgir l'inattendu, le stupéfiant, au cœur même de la cité, et que la cité a appris à domestiquer. Et il m'arrive souvent de citer ce mot que disait un berger grec à mon ami grec lui-même, Kostas Papaioannou. Il lui montrait une grotte consacrée à Dionysos, tout près d'Elphes. Il lui disait, « Sais-tu pourquoi on a mis là ce sanctuaire de Dionysos ?» Tu vois, c'est comme l'herbe sauvage. Si on ne la laisse pas pousser ici, elle poussera là, et il désigne le cœur de la cité de Delphes. Alors, la tentative que représente le théâtre tragique et le dionysisme, c'est un effort pour domestiquer le sauvage.
Oh, September day.
Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe présente le dieu Dionysos.
Dites, savez-vous au moins ce que c'est que des bacchantes?
Bah, chef, des bacchantes, c'est des...
Non, c'est pas des, c'est peut-être des moustaches, mais c'est peut-être aussi des personnes du genre féminin. Féminin, bacchantes. Bacchantes, NF, NF.
Non féminin.
Ah, non féminin, mais qu'est-ce que je vous dirais? Mais ça commence. Voilà. Attendez. Prêtresse de Bacchus. Femme échevelée. Furieuse. Lascive. Lascive.
Dionysos était un dieu nécessaire. Face aux grands dieux et grandes déesses bien solides, bien identifiées. Face à ses maîtres officiels reconnus d'un domaine et de culte précis. Le ciel et ses orages pour Zeus, le dieu suprême. La force de la mer pour Poséidon, l'amour pour Aphrodite, la guerre pour Arès. Face à ces dieux, il fallait un dieu plus libre, errant, fantasque, à la fois présent et absent, masqué et danseur. Qui ne soit pas limité à un domaine attitré, il fallait un dieu qui soit le dieu de l'expérience du divin, en général, comme surprise. Le divin, dans sa différence, arrache les humains à la vie normale, bouleverse les formes établies, déchire ou satisfait. Le divin, quand on le rencontre, fait qu'on n'est plus soi-même, comme dans l'ivresse que donne le vin. Les Grecs ont donné un nom à cette expérience d'arrachement hors de soi, le nom de Dionysos. Cette expérience n'était pas seulement pénible. Les danses rituelles du dieu peuvent être heureuses, joyeusement libératrices. Le théâtre a aussi cette force-là. Dionysos n'est pas seulement le dieu de la douleur, du déchirement, du délire destructeur. Le rire est aussi une expérience du divin, car il fait sortir hors de soi-même. Il interrompt le souffle, secoue le corps et produit le bonheur. Dionysos est le dieu de la tragédie, mais il est aussi le dieu du rire énorme de la comédie. Il le montre dans une comédie du poète Aristophane, Les Grenouilles. Pièce qu'Aristophane a composée juste après la mort d'Euripide. Il reprend le dieu de la pièce d'Euripide, Les Bacchantes, et joue avec. Les Grenouilles ont été montrées au public athénien dans le même théâtre, un an après. Dionysos, à nouveau, y a le premier rôle, mais cette fois pour faire rire, de lui-même et des autres. Au début de la pièce, Dionysos est triste. Euripide vient de mourir. C'était son auteur tragique préféré. Les autres, ceux qui restent, sont mauvais. Ils ne sont que de la petite grappe, des babilleurs, de la muse d'hirondelle. N'en pouvant plus, Dionysos en manque, décide d'aller aux enfers et d'en sortir Euripide pour qu'il continue à écrire des pièces. Pour cela, il se déguise en Héraclès, son demi-frère, puisque Héraclès autrefois a su franchir la porte des enfers et en sortir le méchant chien Cerbère. Dionysos porte maladroitement la massue et la peau du lion de son frère Héraclès. Il se conchit de peur à chaque adversité, mais malgré cela, il est méconnaissable sous son déguisement, comme d'habitude. Dionysos arrive au fleuve des enfers, loue pour 2 oboles la barque du passeur funèbre Charon et rame. Peu sportif, bedonnant, il s'épuise vite. Tout d'un coup sort de l'eau le chant des grenouilles. Leur chant qui entoure la barque et accompagne de sa cadence les coups de rame du dieu chante Dionysos, alors même que les grenouilles ne le reconnaissent pas. Cette musique énerve le dieu qui souffre comme un diable sur son banc de nage. On est loin de l'harmonie enthousiaste des rites bachiques. Pourtant, le dieu et ses dévotes sont là. Les grenouilles commencent par un cri. Les grenouilles, après ce cri, se lancent dans un chant très subtil, léger, savant, où Aristophane se moque de la poésie de son temps. Finalement, cette poésie n'est que coassement. Le dieu qu'elle célèbre reviendra aux réalités concrètes, les souffrances et les bruits de son corps. Le cœur.
Fille des sources paludéennes, le cri des chants avec ses flûtes, prononçons-le ma poésie bellement volcanique.
Quax, quax.
Que pour le dieu de Nyssa, Dionysos, fils de Zeus, au palude en fait nous crions, quand la clique migraineuse des bourrées, au jour des peaux sacrées, pénètre mon enclos sacré en foule citoyenne.
Brekekex, quax, quax.
Dionysos.
Oui, mais moi, je commence à pâtir du cul au coax, coax.
Le cœur.
Brekekex, coax, coax.
Dionysos.
Oui, mais moi, j'ai des cloques et l'anus me sue depuis un moment, si bien que bientôt tout penché, il sortira et dira.
Le cœur.
Brekekex, coax, coax.
Dionysos.
Ô race amoureuse des odes, arrêtez.
Le dieu, finalement, arrivera à destination. Comment fait Dionysos pour être tout cela à la fois terreur, joie, obscénité, liberté, douceur du vin, partage, déchirement? Juste une chose encore. Il est aussi le dieu de la musique, mais d'un aspect précis de la musique. Avec lui vont les flûtes et les tambours, les claquements de mains. Le son obsédant, suraigu des flûtes dérange, donne des frissons, nous met hors de notre état normal. Les tambours donnent une forme par le rythme à cette évasion hors de soi. Ce n'est qu'un aspect de la musique. À côté, il y a la mélodie, l'harmonie entre les notes. C'est le domaine de la lyre. Elle n'est pas du domaine de Dionysos. Elle appartient à son demi-frère, Apollon. La lyre, avec la beauté, la clarté, la plénitude du son bien défini de chaque corde, transporte dans un monde merveilleux, bien ordonné. Le tambour, avec ses coups, avec ses syncopes, ses déséquilibres, ses accélérations, vient interrompre cet ordre stable. Comme le rire, il hoquette, produit un léger raptus éphémère qui chaque fois relance la musique, lui donne de l'énergie. Par là, il produit une expérience entraînante du temps, de ses secousses, de ses rythmes différents. Le tambour et ses coups, répétés et variés, donnent une forme sensible à cette expérience. Une fois rythmé grâce au tambour, le temps, qui est par définition instable, imprévisible, changeant, prend une consistance. Il peut se chanter, se danser, il peut être apprivoisé, accueilli par les corps, pour leur plaisir. Les deux dieux musicaux, Dionysos et Apollon, sont indissociables, comme Friedrich Nietzsche l'avait bien vu dans son livre « La naissance de la tragédie ». Face à l'architecture bien ordonnée des sons de la lyre d'Apollon, Dionysos apporte l'expérience à la fois maîtrisée, enivrante et scandée du temps. Dieu du changement, de l'ivresse, du travestissement, de la mise en péril de tout ordre, il apporte aux humains, par la danse et le rythme, la conscience du temps et la liberté de faire du temps et de son instabilité, de ses surprises, ce qu'ils veulent, à leur guise. De jouer avec lui, de l'allonger, de le condenser, dans des formes musicales à la fois entraînantes, enivrantes et précises, contrôlées et savantes. Les formes musicales de la tragédie, de la comédie, du rock, du hard rock, du jazz et du rap, de toute musique un peu élaborée. Dionysos n'est donc pas seulement le dieu de la cruauté, du délire destructeur, de l'ivresse sans limite. S'il n'était que cela, il ne ferait que reproduire sous une forme extrême, exacerbée, des expériences humaines bien connues, tellement fréquentes. Il serait redondant, inutile. Dans ses histoires, dans ses rites, dans les paroles et les danses qu'il suscite au théâtre, il accueille sans réserve, sans censure aucune, toutes les expériences radicales de l'humanité, expériences violentes, qu'elles soient atroces ou heureuses, il leur donne une forme. Par sa science rigoureuse des rythmes, des changements, il procure la liberté joyeuse de faire ce qu'on veut de ces expériences extrêmes, de ne pas se laisser absorber, engloutir par elles. Il libère. Ce dieu n'est pas prêt de mourir.
Laurent Godet.
Dionysos est à la fois le dieu, effectivement, du dérèglement, mais aussi du théâtre, aussi du vin, aussi de l'ivresse, tout ça. C'est un dieu subversif par rapport à la cité. Il n'est pas dans l'ordre de la cité. Donc effectivement, il est du côté des femmes, puisqu'à l'époque, elles n'étaient pas partie prenante dans la cité, et des esclaves, et de tous ceux qui n'ont pas de place dans la ville. Et ça m'intéressait, parce que je me suis dit, c'est... Aujourd'hui aussi, on a des ombres dans nos villes et elles n'ont même pas de dieu. Donc, est-ce que Dionysos ne devrait pas revenir, en fait ?
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisé par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. La programmation musicale est signée Thierry Dupin. Les textes ont été lus par Laurent Stocker et Léa d'Auvergne. La prise de son a été assurée par Valérie Lavalard et le mixage par Cédric Châtelus. La semaine prochaine, nous parlerons d'amour avec la déesse Aphrodite. Bonne journée sur France Inter.